stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. If I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I stay or should I go?
Bonjour à tous.
Bonjour.
On se retrouve sur les coups des jeunes, donc l'émission de novembre. Donc moi, c'est toujours Juliette Gert, si vous en rappelez.
Moi, c'est Mathis Chartier.
Soraya Manuela d'Alberto.
Avant de commencer sur notre petit format du jour, j'aimerais bien vous expliquer en fait comment il va s'articuler. D'abord, on va faire une petite introduction. Et ensuite, on va passer à chacun, du coup, une chronique sur des sujets de nos choix. Donc aujourd'hui, Mathis va nous parler du remaniement ministériel.
C'est ça.
Je vais vous parler de la puissance des mots. Bon, ça fait peut-être peur comme ça, comme titre, mais ça devrait aller. Et Soraya va nous parler de l'indépendance de l'Angola. Donc on va donner nos petites infos de la semaine, des choses qui nous ont marquées. C'est une petite idée que j'ai eue parce que je me dis que ça apportera un peu de peps et puis ça montrera un peu quels sont nos centres d'intérêt ici.
Ok, bon bah je vais vous commencer avec une info que je pense que la majorité de nos auditeurs auront entendu, c'est les inondations en Espagne. C'est une info qui m'a beaucoup touché parce que c'est un pays que j'aime particulièrement, c'est juste à côté. Et donc voilà, donc il y a eu des inondations meurtrières, hein, on prédit 219 morts, 89 disparus. Donc c'est quand même assez colossal pour le pays.
Très très colossal.
Ouais, ouais, c'est
même, ça nous montre quand même que le réchauffement climatique fait beaucoup de dégâts.
Voilà,
enfin le changement climatique.
Et puis surtout que de ma part, je pensais que l'Espagne aurait pu s'adapter assez rapidement à la situation. On voit que c'est pas encore le cas. Hein. Il y a des manifestations, il y a beaucoup de choses qui ne plaisent pas aux locaux à côté de Valence, du coup, là où ont lieu les inondations. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de ça parce que ça me touche et puis parce que c'est important d'en parler.
Ça devrait tous nous toucher, je pense.
Oui, bah oui.
C'est important de le savoir déjà.
C'est important de le savoir.
Et toi, Soraya ?
Moi, la petite chose qui m'a percutée, c'est en me promenant dans les réseaux, j'ai découvert un nouveau média qui s'appelle Histoire Crépue. Et ça m'a tellement intéressée, déjà par son nom, Crépue. Hein.
Je connais.
Mais non !
J'aime beaucoup.
C'est vrai, parce que je n'avais jamais vu et je l'ai vu. Et c'était une petite vidéo où il parlait du coup qu'il voulait être un nouveau média, faire des podcasts, qu'il cherchait des scientifiques parler de tout ce qui était du coup je trouve des sujets qui me touchent et qui doivent toucher beaucoup de personnes, du coup le racisme, comment changer au racisme, et ça m'a trop intéressé. J'attends de voir plus de leurs podcasts, tout ce qu'ils vont faire, et voilà la petite
donc chose. ils ont déjà une chaîne YouTube, je sais pas si t'es au courant, et ils parlent notamment beaucoup d'histoire décoloniale, donc des sujets à déconstruire sur lesquels on est pas forcément au courant tout le temps, donc ça peut intéresser beaucoup de gens, et moi je regarde assez souvent. Donc voilà, c'est pas forcément orienté, enfin c'est un peu orienté politiquement, mais ça a quand même le but de remettre des faits historiques qui sont pas accessibles à tout le monde. Et moi, cette semaine, je vais vous parler donc de quelque chose dont on a tous entendu parler, quelque chose qui s'est passé mercredi matin, en tout cas en France, le 5 novembre, pour les personnes qui ont voté, donc c'est l'élection américaine. Donc je ne veux pas forcément m'impliquer à fond dedans parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué.
En tout le monde, en vrai.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup, de plus en plus, les jeunes, justement. Ça a beaucoup touché chez les jeunes, ça a beaucoup intéressé.
Évidemment. Donc, j'imagine que vous êtes au courant si vous ne vivez pas dans une grotte, mais Donald Trump a été réélu 47e président des États-Unis. Donc, il avait déjà assuré un mandat de 2016 à 2020. Et celle qui a perdu, c'est Kamala Harris, membre des démocrates. Et à vrai dire, les sondages, ça faisait quand même quelques semaines qu'ils nous annonçaient que le score serait plutôt serré. Et on s'est rendu compte assez rapidement, moi en me levant mercredi matin avant d'aller en cours, que l'écart était globalement assez grand, quoi.
Ouais.
De vote. Et moi, je m'y attendais pas du tout, puisque pour moi, Kamala Harris, c'était une personnalité marquante, une femme noire, si l'on peut dire. Enfin, en tout cas, sa mère est indienne, son père est jamaïcain. Et une femme, ce qui est assez notable, puisqu'il n'y a jamais eu de présidente femme aux États-Unis. Et je pensais que ça mobiliserait en fait plus de personnes, puisque c'est des causes qui sont très chères aux gens. Et puis en fait, après m'être repenchée sur le sujet après les élections, je me suis rendu compte que j'avais peut-être des désillusions, puisque le sujet qui reste principal, notamment en temps d'élection, en fait, c'est le pouvoir d'achat.
Ouais, le
c'est
pouvoir
les crises
d'achat,
économiques. Ouais. Et pour moi, peut-être que c'est de mon point de vue d'européenne, mais je pensais que l'avortement serait beaucoup plus au cœur du débat. Et le changement climatique, etc., enfin, des causes qui sont globales et qui touchent énormément de personnes. Mais il se trouve que l'économie, évidemment, c'est un facteur super important dans la vie des gens, notamment les personnes qui sont défavorisées. Et en fait, peut-être que Trump a pu davantage cibler cet électorat que
mais
Kamala
en fait,
Harris a pu le faire.
C'est qu'ils pensent vraiment à eux, tout ce qui est économique, tout ça, c'est qu'ils pensent un peu plus à eux que l'avortement. C'est pas comme s'ils vont penser un peu plus global, la population. C'est pour ça, en vrai, ils ont voté Trump.
Oui et non, parce qu'en fait, oui, mais on comprend pourquoi ils ont pensé à eux. Mmh. Enfin, moi, j'y ai réfléchi et je me suis dit, évidemment que si on te vend, bon, aussi, il y a la désinformation, mais évidemment que si on te vend quelque chose qui va te permettre de vivre mieux, de pouvoir acheter des choses, de pouvoir faire des soins, peut-être que Trump, en fait, il propose pas de solution concrètement, mais en fait, il fait quelque chose, il les rend visibles, alors que peut-être que Kamala Harris, elle a pas rendu visible ce problème majeur, sachant que le taux d'inflation aux États-Unis, il est énorme, mais il a jamais redescendu, en fait.
Ouais.
Donc c'était mon information de la semaine, ma déception aussi. Mais je pense que les États-Unis ont des institutions fortes et même si elles peuvent être ébranlées, je pense qu'elle saura se relever de tout ça, puisqu'en fait la démocratie persistera même s'il y a d'autres alternatives entre-temps. Parce que je pense que c'est dans l'idéal américain en fait, historiquement. Donc maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer à notre petite émission. Et je laisse la parole à Mathis.
Merci Juliette. Alors, bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de votre chronique préférée. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un moment clé de la vie politique française, la formation d'un nouveau gouvernement. Cet événement, souvent scruté à la loupe par les citoyens et les observateurs, reflète les priorités du président de la République et du Premier ministre, mais aussi l'équilibre fragile des forces politiques, sociales et économiques du pays. Alors comment se déroule la formation d'un gouvernement en France? Quels sont les enjeux politiques derrière ces choix? Est-ce qu'on peut dire de la composition du nouveau gouvernement d'un gouvernement moderne?
Je tiens quand même à préciser que ta chronique a été rédigée il y a un petit moment.
Oui.
Mais évidemment que le gouvernement reste d'actualité puisqu'actuellement on voit déjà les conséquences de la formation du gouvernement au niveau du budget.
On peut s'imaginer
donc,
déjà...
Je te laisse reprendre, mais voilà, la formation du gouvernement, dans tous les cas, c'est quelque chose d'important. Même si c'est passé, une actualité, en fait, elle a des conséquences, donc elle s'efface pas une fois qu'elle est arrivée dans notre espace médiatique.
D'abord, la formation d'un gouvernement en France, c'est un acte politique extrêmement symbolique. Hein. Elle intervient après une élection présidentielle ou en cours de mandat, lors d'un remaniement ou à la suite d'une démission du Premier ministre, dans le cas actuel, par exemple. La composition du nouveau gouvernement est le fruit d'un remaniement post-électoral avec pour objectif de refléter les évolutions du paysage politique et de donner une impulsion nouvelle à l'action gouvernementale. La première étape déjà c'est la nomination du Premier ministre, c'est le président de la République qui choisit cette figure clé. Ce choix envoie déjà un signal fort puisque... Elle demande la continuité ou la rupture avec l'ancien gouvernement. Cette fois-ci, le chef de l'État a fait le choix de confirmer son Premier ministre en poste, symbolisant ainsi une volonté de continuité dans la gestion des affaires courantes, mais avec la ferme intention de renouveler certains ministères pour répondre aux défis actuels que nous allons évoquer. Équilibre des forces politiques, la composition du gouvernement vise également à refléter un équilibre entre les différentes sensibilités politiques. Traditionnellement, le président et son premier ministre s'efforcent de composer un gouvernement de large ouverture, notamment en période de cohabitation ou de tension sociale. Les alliances entre les partis sont souvent subtiles et calculées, afin de s'assurer un soutien stable à l'Assemblée nationale, condition sine qua non pour faire passer les réformes. Dans le cas du nouveau gouvernement, nous assistons à une diversité de personnalités venant de différents horizons politiques, mais aussi...
Différents horizons politiques,
oui, alors,
c'est peut-être
c'est
pas le terme que j'aborderai. Différents
apprendre.
Horizons, mais quand même sur une partie politique
voilà,
de l'échiquier à droite, quand même.
Qui reste,
ouais,
qui, reste, qui reste sur les idées et les idéologies de Macron. Cette ouverture est une tentative de réconciliation avec une certaine frange de l'opinion publique, parfois critiquée face à l'élite politique traditionnelle. Cela permet de répondre à une double attente, celle de cohésion politique et celle de renouvellement des visages au sein du pouvoir exécutif. Continuité ou renouveau ? Dans ce remaniement, plusieurs ministères stratégiques méritent une attention particulière. On pense notamment à des portefeuilles tels que l'économie, l'éducation, l'écologie ou encore l'intérieur. Dans le cas-ci, on voit que la majorité des portefeuilles, des ministres portefeuilles, qu'on appelle ça, sont des ministres de droite, contrairement aux
résultats. Républicains. Du parti Les Républicains. Donc, on pense à Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui a un poste super important, qui est très très ancré à droite, parce qu'il est entre la droite et l'extrême droite sur les idées. On voit notamment avec le débat sur la loi de l'immigration qui est en train de revenir actuellement.
Tout le temps.
Elle revient tout le temps, effectivement.
Donc les portefeuilles. À l'économie, la reconduction d'un ministre compétent et expérimenté reflète une volonté de stabilité dans la gestion des affaires financières du pays. Il s'agit d'envoyer un signal de confiance au marché et aux partenaires internationaux, en particulier dans le contexte de post-crise où la relance économique reste une priorité absolue.
Mais est-ce que la volonté est respectée ? Est-ce qu'on le verra avec notre budget et notre parlement si diversifié finalement ?
Cela reste à voir, bien sûr.
Mystère.
L'éducation, quant à elle, voit un nouveau visage. Madame Anne Genté, ce ministre, souvent exposé aux critiques de l'opinion publique, est un terrain très glissant. La nomination d'un ministre issu de la société civile peut être vue comme un moyen de désamorcer certaines tensions et de proposer un regard neuf sur des réformes éducatives complexes. Et enfin, le ministre de l'écologie est un des plus observés avec la crise climatique qui s'intensifie. La nomination d'une figure forte et crédible comme Agnès Pannier-Runacher est perçue comme une tentative de répondre aux attentes d'un électorat de plus en plus sensibilisé aux questions environnementales. Elle n'a pas changé de ministère.
D'accord. Si je peux revenir juste sur le ministère de la Culture. Alors, elle est certes très très contestée, très très polémique. Néanmoins, récemment, elle a beaucoup fait parler d'elle avec la pétition pour finir à 13h des lycéens. Je me rappelle plus du nom exact de la pétition, puisqu'elle avait accepté de discuter en fait avec des élèves, des influenceurs, on peut dire, sur les réseaux sociaux à propos de ça. Ça montre quand même qu'il y a une démarche d'ouverture sur les débats actuels, puisque l'éducation, en fait, c'est une structure forte qui est très stable et qui est très compliqué à remanier et à rebouger en fait après que les choses soient établies, puisque il y a beaucoup beaucoup d'institutions qui marchent ensemble à l'intérieur même de l'éducation. Donc je trouve que c'était une démarche assez bien, sauf qu'elle n'a pas abouti, puisqu'en fait l'élève en question, il a tenu des propos homophobes et du coup le gouvernement n'a pas voulu former une alliance avec quelqu'un qui tient un genre de propos qui ne correspond pas à leur engagement politique. Néanmoins, je pense qu'on peut quand même dire que le combat continue sur les réseaux sociaux, notamment puisque les élèves essayent quand même de mettre en avant leur opinion.
Après, j'ai remarqué, suite à la pétition, parce qu'elle a eu le nombre de signatures, si je ne me trompe pas, qu'ils avaient trouvé une alternative un peu. Un lycée allait essayer... de faire ça dans leur école pour essayer.
Bah, ça permet au moins de voir si ça fait ses preuves.
Oui, c'est un test, je trouve.
Donc voilà, c'était pour montrer quand même que c'est quelqu'un de polémique, certes,
mais c'est
peut-être aboutir, quelqu'un qui peut montrer l'ouverture, notamment de la partie civile, quoi.
Les défis à relever. Au-delà des jeux d'équilibre politique et des symboles envoyés à travers la composition du nouveau gouvernement, ce dernier devra affronter des défis colossaux. La crise sociale exacerbée par l'inflation, le hausse du coût de la vie et les inégalités persistantes restent les priorités à suivre. Le nouveau gouvernement devra proposer des solutions concrètes, notamment à travers des mesures sociales et des réformes structurelles. On peut aussi mentionner la réforme des retraites, sujet particulièrement épineux en France et qui continue de diviser l'opinion publique. Le président et ce gouvernement devront redoubler de pédagogie et de négociation pour éviter de nouvelles vagues de contestation.
Et qui continue à diviser le Parlement aussi actuellement, puisqu'en fait, j'ai pas les termes exacts, mais puisque en fait chaque mois, le parti, ils ont une fenêtre de tir, enfin un horaire où ils peuvent proposer une loi. Et en fait, actuellement, et le Rassemblement national et les partis de gauche veulent proposer ce type de loi, mais puisqu'ils ne veulent pas s'accorder ensemble pour pas avoir l'air de trahir leur identité politique, en fait, c'est quelque chose qui n'avance pas. Actuellement, pourtant, c'est quelque chose qui était très contesté, la réforme des retraites, par les Français. Et en fait, pour l'instant, c'est condamné à l'immobilisme politique de la faute des partis. Hein.
Ouais.
Donc, c'est évidemment un sujet très important.
C'est un peu dangereux, le fait que des partis puissent pas s'entendre sur des projets, alors qu'ils portent les mêmes idées.
En plus, comme c'est des projets en plus de différentes idées, c'est même le moment de s'allier avec d'autres personnes parce que ça voit les idées d'autres personnes. Comme si ils ont été élus, c'est par du coup des citoyens et c'est un peu comme si on voyait la vue de d'autres citoyens et c'est important de s'allier.
Évidemment, c'est important de s'allier, mais on peut quand même rappeler que je pense que s'il y a un problème de relation entre deux partis dans notre Parlement, c'est évidemment le Rassemblement national et la France insoumise, qui sont deux forces politiques très majeures dans le gouvernement, mais dans le Parlement, et qui vont avoir beaucoup de mal à s'accorder, hein, pour pas se décrédibiliser auprès de leurs électeurs, pour pas avoir l'air d'accepter les idées de l'autre. Mais en même temps, il y a un devoir, enfin, pas légalement parlant, mais moral, il y a un devoir moral d'appliquer la volonté des Français qui les ont élus. Donc on se retrouve dans une situation très compliquée, ce qui montre vraiment que ce sujet, et c'est vraiment la croisée de plein de sciences humaines, de plein de problèmes sociaux, de problèmes économiques. C'est des choses auxquelles on va devoir faire face pourtant.
Donc pour les derniers projets, enfin la transition énergétique, la réforme de la santé ou encore la gestion de l'immigration sont autant de dossiers sur lesquels l'exécutif est attendu. En conclusion, la formation de ce nouveau gouvernement semble marquer un compromis entre continuité et volonté de renouvellement. Si certains ministères stratégiques restent sous la conduite des personnalités éprouvées, d'autres portefeuilles voient l'arrivée de nouveaux visages dans une tentative de répondre ou pas aux attentes d'une société française en quête de changement et de modernité. Reste à voir si ce gouvernement parviendra à relever de nombreux défis qui l'attendent. Une chose est sûre, les prochains mois seront déterminants pour juger la cohérence et l'efficacité de ce nouvel exécutif. C'était votre chronique préférée, merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle analyse sur l'actualité française. Avant de retrouver Juliette pour sa chronique sur la puissance des mots, nous allons faire une pause musicale avec « Je partirai d'Auchy ».
Dites-moi si je dors ou si je suis bien là. Je ferme les stores, cherche la lumière en moi. Dans mon corps, il doit bien y avoir ça. Dites-moi si on ne m'aime plus tant que ça. Ici la haine tue, putain je ne comprends pas. Pourquoi moi je leur sers d'appât. Je partirai quand ça sera plus la fête, quand les étoiles seront ternes, pour rester éternel. Je partirai au milieu de la tempête. Je trace comme une comète. Tu sais rien ne m'arrête. Je partirai. Sortez vos caméras. Dans la foule, je me jette dans vos bras. Et surtout, gardez un bout de moi. M'en voulez pas si je me fais un film ou un drama. Je marche sur un fil qui se défile sous mes pas. Cherche un endroit, un toit pour être moi. Je partirai quand ça sera plus. Quand les étoiles seront ternes, pour rester éternel, je partirai au milieu de la tempête. Je trace comme une comète. Tu sais, rien ne m'arrête.
Donc, rebonjour. On se retrouve encore sur l'écho des jeunes après une petite pause musicale. Moi, c'est toujours Juliette et je vais vous proposer un sujet sur la puissance des mots aujourd'hui. Donc, c'est un sujet qui peut paraître assez effrayant, dit comme ça, assez littéraire. Donc, je ne vais pas trop faire peur aux personnes qui sont de nature scientifique. Mais en fait, c'est un sujet qui aborde plein de thématiques, notamment des thématiques culturelles, mais des thématiques de représentation. Représentation politique et des thématiques de pouvoir. Parce que détenir les mots, c'est détenir le pouvoir. Et je vais essayer de vous le montrer. Donc, petite introduction déjà. La quantité de mots dans les langues humaines, orales et ou écrites, est infinie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les mots ne sont pas de simples expressions. Ils sont aussi le reflet d'un contexte historique et le reflet d'une représentation des personnes qui les emploient, les transforment, les importent et les exportent. Il y a entre autres les mots voyage, les mots en commun, les mots engagés, les mots sentimentaux et ceux qui sont le tout à la fois. Nous allons commencer un petit périple dans l'univers littéraire, car oui, les mots sont avant tout témoins d'échanges et de mélanges entre les peuples et les cultures. Par exemple, l'étymologie du mot café, ou kawa en arabe. Je ne sais pas si je le dis correctement, donc excusez-moi. boisson chaude qui est apparue en Afrique de l'Est, puis qui s'est répandue dans le monde arabo-musulman. Ensuite, le mot café, sous une forme nouvelle, a atteint au XVIIe siècle les rives de Venise et de France par les échanges commerciaux et par la mondialisation. Le café a donc intégré les dictionnaires de nombreux pays. Donc ça nous montre déjà que les mots échangés sont parfois des signes de culture commune. Certes, il y a le café, mais il y a aussi tous ces mots qui puisent leurs origines dans l'histoire des peuples, les empires, la colonisation, la mondialisation. Les langues évoluent, ce qui peut parfois donner des mélanges hybrides. Le yiddish, une sorte de mélange d'hébreu, en fait, qui s'adapte au territoire, c'était notamment parlé en Europe de l'Est, mais il y a un peu des yiddish qui sont particuliers à chaque pays, et il a quasiment disparu après la Seconde Guerre mondiale, donc après la Shoah. Les différents patois, les créoles, et la plupart des langues anciennes ne sont pas à proprement parler mortes, que ce soit le latin, le grec ou l'hébreu biblique, seulement changées, échangées. On pourrait presque parler de culte commun. Parfois, par le biais des textes religieux, dont les plus célèbres sont la Torah, la Bible et le Coran, enfin, du moins les textes monothéistes, c'est une culture commune qui est montrée. Dans les communautés religieuses, les mots réunissent, sont un socle de valeurs et de caractéristiques. Même si parfois ce socle est oral, comme en Grèce, dans la Grèce antique. Ce qui pose alors un autre constat. Les mots sont des liens communs entre les personnes. Mais s'ils ne sont pas diffusés dans l'espace médiatique, ou inscrits dans l'histoire avec un grand H, comment les personnes qui les utilisent peuvent-elles être vraiment représentées? On peut penser aux réelles langues mortes. Celles qui ont été effacées de force lors de la conquête des territoires. Notamment, moi je pense aujourd'hui à celles des tribus amérindiennes, par exemple. Aujourd'hui, comment représenter ces peuples dont les traces, les mots communs, ont souvent disparu? Ainsi, les mots sont des marqueurs de représentation qui permettent aux groupes de personnes d'exister, historiquement, mais aussi d'exister actuellement. Quelquefois, les mots peuvent aussi être des marqueurs de discrimination. En effet, on remarque que certains langages sont davantage acceptés socialement, et d'autres nettement moins, ce qui peut parfois décrédibiliser les réalités exprimées par ces personnes. Par exemple, on remarque que les argots propres aux classes populaires, ou ceux des personnes discriminées, sont sous-représentés et souvent moqués dans les paysages médiatiques traditionnels, parfois taxés de vulgarité ou de manque de sérieux. On peut penser au rap, même qui est assez normalisé actuellement, mais qui a été longtemps discriminé par rapport au langage parlé, puisqu'il était associé au fait d'être un voyou des banlieues. Quoi. Voilà. Ou notamment, je pense à Aya Nakamura, encore aujourd'hui, qui est taxée de vulgarité par rapport aux mots qu'elle s'emploie.
Je comprends pas.
Donc, un livre de fiction qui m'a inspiré cette chronique illustre parfaitement cette idée. Il a intitulé « La collectionneuse de mots oubliés ». Il est écrit par Pip Williams. L'histoire se déroule au début du XXe siècle en Angleterre, lorsque le premier dictionnaire Oxford est composé. Globalement, l'histoire s'articule autour de la place des femmes dans cette société. et particulièrement celle des femmes défavorisées. L'enjeu de ce livre est effectivement de redonner leur place aux mots dans les représentations données des personnes. Comment réagir quand les mots « bonne à tout faire », les mots au féminin, ceux concernant les menstruations, mais aussi les expressions du quotidien des femmes du marché, sont tout bonnement effacés? Pourquoi? Ces expériences ne méritent-elles pas d'être représentées? Aujourd'hui, ce schéma se reproduit. À la télé, à la radio, parfois, dans certains livres. Comme si ces réalités devaient être cachées. Toutefois, pour un petit côté positif, de nombreuses formes d'art et beaucoup de personnalités font des percées dans ce mur médiatique, notamment par le biais des réseaux sociaux. Toutes les représentations sont importantes, que ce soit des musiques, des films, des personnes politiques, des influenceurs, des artistes, des auteurs. Pensez au succès de films comme Hors Normes, La Haine, La Tresse. Quelle réalité ignorée met-il au grand jour? Ainsi, les discours, les paroles sont essentiels autant sur le fond que sur la formulation. En effet, et ce sera ma dernière partie, être représenté, c'est aussi avoir une part de pouvoir dans la société. Ainsi, des expressions fortes, puissantes, sont parfois utilisées comme des revendications collectives, des slogans politiques. On peut penser au fameux « I have a dream » de Martin Luther King, ou à son opposé, le « Make America Great Again » de Donald Trump. Je précise que j'ai écrit ça avant l'élection, donc ça me fait un peu bizarre actuellement.
Ou « Histoire crépue » aussi. Hein.
C'est vrai, mais bon, qui n'est pas un slogan politique, oui. Mais on devrait en trouver dans les vidéos. On peut penser au slogan « Rends l'argent » à l'occasion, qui a été réutilisé maintes et maintes fois dans plein de contextes, ou encore à mon préféré, que je vais développer, « Inscrit, je suis arabe », du célèbre poète Mahmoud Darwish. C'est normal si vous n'en avez pas entendu parler, puisqu'en fait, c'est un poème qui a été connu à travers le monde, mais plus anciennement, puisque le poète est mort en 2008, et qui a été surtout connu dans les pays arabes. Poète avec un parcours que je vais survoler et qui illustre parfaitement la puissance individuelle et collective des mots. Mahmoud Darwish est un poète palestinien qui s'est inspiré de sa terre d'origine, de ses quelques années auprès du peuple israélien et de ses exils, comme celui au Liban ou celui à Paris. Lorsqu'il publie son premier recueil de poésie en 1960, il a 19 ans. Dès lors, les mots lui permettent de renouer avec ses souvenirs, ses racines et ses impressions, entre l'amour, la colère et la mélancolie, et l'exil et la peur pour son peuple, qui est d'actualité aujourd'hui, si je peux me permettre. Écrire permet à son esprit de grandir. Aussi, grâce à ses publications, le monde redécouvre la culture et la cause palestinienne. Il représente dans ses premières années d'auteur la figure du monde arabe. En 1964, il écrit dans son poème « Identité » « Inscrit, je suis arabe. Mon prénom est commun. Je suis patient dans un pays bouillonnant de colère. » Ces mots si simples, en apparence, font mouche pour les peuples arabes en colère, qui veulent être respectés et gagner en importance au niveau mondial, après beaucoup d'années de domination occidentale. Donc il écrit ça en 1964, donc c'est pile pendant les guerres d'indépendance, ou juste après, ça dépend des pays.
L'indépendance.
Et Soraya reviendra dessus. Et il écrit ça aussi bien avant le printemps arabe, mais ce sera réutilisé beaucoup pendant cette période-là. Toutefois, la puissance de ces mots ne réside pas seulement dans cet engagement du poète, dans cette conscience collective finale, mais surtout dans sa propre sensibilité artistique qu'il réussit en fait à transmettre au monde. Mahmoud Darwish ne voulait pas être réduit au rôle de porte-parole palestinien. Son art devait être libre et évoluer sous d'autres formes. Plus que son style d'écriture, la portée de ses mots s'agrandit par la forme orale, sous forme de récitations et de nombreuses interprétations musicales. Je ne suis pas sûre que je vais bien le faire, en tout cas au niveau de ce poète qui est très important pour moi. Mais je voulais finir cette première chronique avec du mordant, de la beauté, de la force, sur d'autres vers de Mahmoud Darwish. La traduction de son poème « Je suis de là-bas ». « Je suis de là-bas ». Je rends le ciel à sa mère quand il pleure pour elle, et moi je pleure pour que le nuage me reconnaisse à son retour. Pour rompre les règles, j'ai appris tous les mots appropriés à la justice de sang. J'ai tout appris de la langue, je l'ai démêlé pour former un seul mot, patrie. je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai fini ma petite chronique, ma grosse chronique, si on peut le dire quand même, sur l'écho, sur la puissance des mots. Et donc, je vais faire la transition avec une petite pause musicale avant de laisser la parole à Soraya pour parler de l'indépendance de l'Angola. Donc, nous allons écouter Redemption Song de Bob Marley.
Old pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
Alors, on a écouté Bob Marley. Nous sommes encore sur l'écho des jeunes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours. Aujourd'hui, je suis très contente car je vais vous parler de l'indépendance de mes origines, l'Angola. Vous ne voyez pas, mais je porte sa macaque.
Très, très jolie.
Magnifique.
Super beau. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est sa macaque? Parce que peut-être que tous les auditeurs ne savent pas.
Mais c'est vrai. Sa macaque est un tissu angolais typique comporte, qui est des couleurs du drapeau de l'Angola, qui sont du coup rouge, jaune et noir, du coup, avec des motifs. C'est un tissu africain que je trouve vraiment magnifiquement beau. Commençons. L'indépendance de l'Angola a été obtenue le 11 novembre 1975, marquée par la fin de près de 500 ans de colonisation portugaise et le début d'une longue période de conflits internes. Le processus qui a mené à cette indépendance s'inscrit dans le contexte des mouvements de la libération africaine des années 1960 à 1970, où de nombreuses colonies portugaises ont lutté pour leur autonomie.
Notamment le Mozambique, non ?
Ouais, le Mozambique, parce qu'ils ont colonisé quand même beaucoup de choses, je trouve.
Beaucoup de pays, mais je crois que les deux principaux, c'était le Mozambique et l'Angola.
L'Angola était une colonie portugaise dès le XVIe siècle, principalement pour des raisons économiques, exploitation de ressources naturelles et commerce, notamment grâce au traité d'esclavage. Le pays était une colonie d'exploitation et le Portugal a maintenu un envahissement sévère malgré la montée des revendicateurs d'indépendance au XXe siècle. À partir des années 1950, des mouvements de résistance armée politique voient le jour en Angola. Les principaux groupes sont MPLA, traduit en français le Mouvement populaire de la libération de l'Angola, fondé en 1956 et soutenu par l'Union soviétique et Cuba. Ce mouvement était orienté vers les idées marxistes.
C'est très allemand. Ouais. C'est quand même quelqu'un que vous devez connaître, Karl Marx, je pense.
Voilà.
Il n'est pas communiste à la base, mais c'est quand même lui qui a inspiré en partie les idées communistes. Et
ouais, parce que c'était un peu dans le communiste.
Comment dire, je pense qu'on ne peut pas définir le marxisme. Ça nécessiterait une chronique à part, puisque
oui, c'est
une théorie qui est énorme. Je pense qu'on pourrait y passer des jours. Mais c'est dans la lignée du communisme. En tout cas, Lénine, à l'époque, quand il a théorisé le communisme, et d'autres après lui, se sont inspirés du marxisme. Et du coup, c'est pendant la période de la guerre froide. Donc ouais, évidemment, c'est un enjeu énorme. Hein.
FENELA, traduit en Front National de la Libération Angolaise, créé en 1962, il est soutenu par les États-Unis, la RDC, le nom actuel, UNITA, traduit toujours Unité nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, dirigée par Jonas Savimbi. Ce mouvement était soutenu par l'Afrique du Sud, dans des mesures par les États-Unis. Ces trois mouvements étaient en concurrence pour la prise de pouvoir, ce qui a mené, qui mènera plus tard à, hélas, une guerre civile.
Du coup, la RDC, c'est la République démocratique du Congo.
Ah oui.
Je ne sais pas si tout le monde sait, mais voilà.
Oui. Et du coup, après à peu près l'indépendance, ça a créé aussi une guerre civile. La lutte pour l'indépendance s'intensifie avec le début de la guerre d'indépendance angolaise en 1961. Cette année-là, une série de révoltes populaires éclate contre la domination portugaise. Les violences coloniales se multiplient en réponse, mais les mouvements libérateurs persistent. Le Portugal faibli économiquement et incapable de contenir les infrastructures des colonies, les situations prennent un tournant en 1914 avec la révolution des œillets au Portugal qui renverse la dictature militaire portugaise. Le mouvement portugais le plus progressif est favorable à une décolonisation rapide. En janvier 1975, les accords d'Alvor sont signés entre le Portugal et les trois principaux mouvements de libération, comme je vous ai cité avant. Ces accords prévoient la création d'un gouvernement de transition en Angola constitué des trois mouvements avec une déclaration officielle d'indépendance fixe pour, du coup, le 11 novembre 1975.
Donc, joyeux anniversaire indépendance de l'Angola. Hein, mmh. Voilà. Enfin, du coup, je pense que la date sera passée quand l'émission de radio sortira. Mais en tout cas, on est dans ces eaux-là. Quoi.
On est dans ces eaux-là. Mais en France, c'est pas férié à cause de ça, hein, juste pour préciser.
Bah, oui, puisque peut-être en Angola, ça doit être la fête nationale angolaise.
Oui. On fait la fête. On mettra du coup sa macaque.
Ça y est, on sait tous ce qu'est sa macaque. Maintenant, vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Voilà.
L'indépendance marque le début d'une guerre civile intensive en Angola qui va durer près de 27 ans. Parce que oui, on était fatigués des colonies, mais après on fait la guerre civile. Horrible. ce conflit est alimenté par la rivalité internationale de la guerre froide, par EMPLA, soutenu par l'Union soviétique et Cuba, qui se permet de maintenir le contrôle de Luanda, c'est la capitale de l'Angola, et des grandes villes. UNITA et FENELA reçoivent le soutien des États-Unis et de l'Afrique du Sud. La guerre civile angolaise sera marquée par de nombreuses pertes humaines et des destructions massives. Elle prend officiellement fin en 2022 après la mort de Juan Savimbi, le chef de UNITA, la signature d'un accord de paix.
C'est énorme. Dites-vous, 2022, c'était seulement il y a 2 ans, en fait.
Bah, en fait, c'était hier, un peu 2022, je veux dire.
C'est vrai que sur... T'as dit qu'elle avait duré combien de temps, la guerre civile ?
La guerre civile, elle a duré 27 ans. C'est après aussi l'Angola, le Mozambique. C'était vraiment un peu les dernières colonies qui ont pu prendre leur indépendance. C'est pour ça que... Bah, un peu la guerre civile, les tensions, il en restait encore à cause de vraiment que c'était les derniers pays à être décolonisés.
Je vois, mais c'est énorme en fait. Mmh. On se dit que même après l'indépendance, en fait, c'est pas des pays qui vont avoir directement accès à la liberté,
ouais.
Puisqu'en fait, c'est une succession de guerres, de conflits. Et en fait, c'est le cas dans beaucoup de pays qui ont été décolonisés. Je pense au Rwanda,
ouais.
Avec le génocide rwandais, qui est encore un conflit civil, on peut le dire, puisque c'est les Tutsis sur les Hutus, même s'il y a des influences internationales. Puis comme là, la guerre froide, influence internationale. En fait, c'est des pays qui regagnent jamais une paix. Ou très difficilement.
Ouais, c'est après des années qu'ils peuvent un peu, je dirais, respirer après tout
voir
ce qui s'est
passé. Voir la
lumière
au bout du tunnel.
C'est ça. Donc, depuis la fin de la guerre civile, l'Angola a connu une croissance économique impressionnante, principalement grâce à leurs ressources pétrolières et minerais. Toutefois, des défis sociaux et politiques persistent, les inégalités économiques, les problèmes de corruption et les défis des infrastructures. Comme on dit, tout ce qui se passe avec autour, qu'il y avait la guerre froide, tout ça, c'est pour ça qu'il reste encore de la corruption.
Oui, il y a encore beaucoup de corruption, j'imagine. Puis au niveau des firmes pétrolières, il y a sûrement beaucoup de corruption, puisque je crois que l'Angola, c'est un pays assez inégalitaire dans la répartition des richesses.
Ça, je ne saurais plus dire pour maintenant.
Je pense. Et puis, c'est un pays qui fait face aussi quand même à beaucoup de changements climatiques.
Ouais, si je ne me trompe pas, il y a 3 ans, il a neigé.
Il a neigé ?
Bah, ils ont eu un peu de
parce
neige.
Parce qu'ils ont des sécheresses tout le temps. Hein.
Ouais, mais c'est ça qui était étonnant.
Ils n'ont pas d'eau en Angola.
C'est ça que c'était étonnant, c'est que... Bah, après, c'est ma cousine qui m'a dit ça. Mais à un moment où il a neigé un peu, ça m'a étonnée.
Peut-être. Je saurais pas dire, mais en tout cas, je sais que c'est un des pays qui est le plus sec actuellement, puisqu'en fait, ils ont un accès à l'eau qui est très très limité. Puis, comme tu parles des infrastructures, il y a quand même beaucoup de problèmes niveau de la répartition de l'eau pour les habitants du pays. Hein. Donc, c'est un pays qui a encore des difficultés auxquelles il doit faire face. Hein. C'est pas fini.
Ouais, mais on espère que.
On garde espoir.
Que ça va évoluer, ça va mieux avancer. Et pour la fin de ma chronique, toujours pour rester dans ce thème, je vous laisse sur la musique de Edith Toussa Margarida.
Donc, je remercie à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés.
Encore merci.
Oui. Voilà, j'espère que c'était pas trop long, puisqu'on a abordé en fait beaucoup de sujets.
Et lourd.
Ouais, c'était très divers.
Très lourd.
On est
passé par tous les pays du monde.
Enfin, oui,
pas tous les pays du monde, mais au moins tous les continents
du monde.
Et bah, je vous remercie d'avoir travaillé sur vos chroniques autant. J'étais très intéressée. Puis je dois avouer que je ne connaissais pas du tout le sujet de l'indépendance de l'Angola.
Non.
Merci, je vous fais découvrir encore plein de choses, j'espère.
Donc, dans la prochaine émission, vous découvrirez encore de nouveaux sujets. Donc, on va rien spoiler, hein. On va garder le mystère. Mais ça va être intéressant, c'est certain. Et donc, on va vous laisser ici. Au revoir.
Au revoir.
Magalida, Magalida, meu coração tá sofrendo. Magalida, Magalida, diz-me aonde estás, mama. Magalida, Magalida, a saudade é demais. A guerra já acabou, Maria. realité. Ce qui espère acheter demain, c'est le diable. A chorar, triste a chorar, Margarida. Eu já cheguei, Margarida, Margarida. Ué, de gulê, Margarida, Margarida. A guerra já acabou, ué.
Guarda, 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 guarda.